Tous les jours, les experts se donnent rendez-vous dans l'Afterwork.
Et on est de retour dans l'Afterwork et puis nous a rejoint comme tous les mercredis Olivier. Salut Olivier.
Salut Cyrielle, bonjour à toutes et à tous.
Et aujourd'hui on va parler de Roger Frison Roche parce que c'est la deuxième de notre petite trilogie que tu as décidé qui s'appelle Les Grands Voyages.
Voilà c'est ça, donc Les Grands Voyages. La première partie c'était Mallory et Irvine avec l'ascension de l'Everest, cette ascension impossible et improbable. Aujourd'hui Roger Frison Roche et puis pour l'une des prochaines fois ce sera bien sûr un voyage autour des grands explorateurs et de ceux qui sont partis, Canada, Antilles, etc.
Alors, Roger Frison Roche, qui est-ce ?
J'ai envie de dire tout simplement un homme exceptionnel. Hein, tout simplement. Les plus anciens connaissent Frison Roche, ne serait-ce que par un de ses ouvrages qui était porté à la télévision et qui a relancé l'attrait pour la montagne dans les années 40. Je veux bien entendu ici parler de Premier de Cordée. Et
alors, puis, pour ceux qui ne connaissent pas Premier de Cordée, alors, comment on peut s'imaginer cette œuvre ?
Ah ah ! Alors, c'est... En fait, il faut s'imaginer une plongée dans la montagne, dans ses sommets. En fait, tout commence avec le personnage principal, le jeune Pierre Servet qui est issu de la vallée de Chamonix et qui rêve de devenir guide de la célèbre compagnie des guides de Chamonix qui existe d'ailleurs toujours et qui est toujours aussi prestigieuse. Son père en revanche s'y refuse complètement hein, mais à la suite d'un événement tragique sur lequel je ne vais pas trop m'attarder parce que je ne veux pas vous spoiler le livre, en fait du coup Pierre peut suivre la voie à laquelle il aspire et cet événement auquel il est confronté va vraiment forger sa vocation et le précipiter définitivement dans ce qu'on pourrait appeler la vie à la montagne. Cette aventure, elle plaît, notamment via le message qui est véhiculé. Parce que, à la carrière paisible, très rémunératrice d'hôtelier, hein, dans les Alpes, à laquelle son père le destine, eh bien, Pierre préfère la voie des sommets, de la nature, du vrai, si j'ose dire.
Et donc, c'est le premier bouquin d'une trilogie.
C'est ça, voilà. Il y a un triptyque, une trilogie sur la montagne qui a été créée par Roger Frison Roche. Alors, la première partie, c'est effectivement Premier de Cordée. Et il y a ensuite La Grande Crevasse, puis Le Retour à la Montagne. Mais bon, j'ai envie de dire, lisez déjà la première partie, puisque personnellement, j'ai trouvé que c'est un peu comme pour Alexandre Dumas, une fois qu'il a réalisé Les Trois Mousquetaires. Ben, une fois que vous voulez lire la suite, qu'est-ce que vous êtes déçu quand vous lisez la suite des Trois Mousquetaires, à savoir 20 ans après, où c'est pas aussi ferme, pas aussi charpenté. Ben là, c'est un peu la même chose, quoi. Mais dans ces trois œuvres, qui ne font qu'une au final, il y a une constante, c'est que la montagne ne ment pas. Elle prend des vies, certes, mais elle fait aussi naître des amours, et en un mot, elle ne laisse pas indifférent.
Parlons un peu de sa personnalité à Frison Roche.
Oui, alors c'est tout d'abord un amoureux contrarié de la montagne, si j'ose dire, un peu comme son personnage. Il est né en 1906 à Paris et il est issu d'une vieille famille qui est originaire des Alpes. Elle n'est pas originaire de Chamonix même, hein, mais des Alpes quand même. Et pourtant, cette montagne, il ne la connaîtra pas tout de suite et c'est là d'ailleurs tout le paradoxe. Hein. Sa famille, elle vit à Paris, comme je vous l'ai dit, et elle s'est tournée vers le milieu des brasseries parisiennes, vers le monde de la cuisine, de la restauration. Est-ce qu'il faut y voir un lien avec le personnage de Pierre ? Je pense que oui, honnêtement. Hein.
Mais il découvre la montagne tout de même assez tôt.
Oui, c'est un homme qui a la bougeotte. Et on raconte que sa première expédition au Mont Blanc a eu lieu l'année de ses 15 ans, avec son père.
On l'a pas tous fait à 15 ans, le Mont Blanc. Hein.
Non. Et puis même certains qui approchent des 30 ans ne l'ont toujours pas fait.
Et peut-être ne le feront jamais.
Non. Donc, on imagine bien dans ces années 20 qu'il y a malgré tout une ferme expérience hein, de la montagne dans la famille. C'est pas comme aujourd'hui, vous savez, où vous avez un équipement de pointe qui remplace une grande partie de ce que j'appellerais l'art du guide. Aujourd'hui, enfin, on va faire une comparaison. J'écoutais il y a quelque temps Claude Vanoni sur une radio concurrente, n'est-ce pas, qui racontait il y a quelques mois à la radio que lorsqu'il fit sa formation de moniteur de ski après la guerre d'Algérie, pardon. Eh bien, on parlait à l'époque d'immenses skis en bois. C'est un peu la même chose hein, pour l'équipement dans ces années 40. On est quand même dans la naissance de l'art, si j'ose dire.
Et du coup, il est allé au Mont-Blanc et à partir de là, eh ben, il veut faire les autres aussi.
Oui, c'est un homme, comme je vous le disais, qui a la bougeotte. Hein. Alors, c'est bien sûr des sommets européens qui vont l'attirer, mais c'est aussi des sommets sur d'autres continents. Alors, il aura une véritable histoire, si j'ose dire, d'amour avec l'Algérie, avec le sud de l'Algérie, notamment avec le Hoggar, cette montagne qui culmine aux environs de 2300 mètres d'altitude. Mais c'est aussi également les contrées sauvages, glacées, à l'instar d'un homme, d'un futur Nicolas Vanier. Alors, il va partir en Laponie avec Artaud ou bien en Amérique du Nord. Et puis, c'est aussi et surtout cette volonté de faire des centaines de kilomètres dans le désert du Sahara à dos de chameau ou bien une traversée du désert en deux chevaux. À l'époque, on ne parlait pas encore du rallye des 4L ou le rallye Aïcha des Gazelles. Un peu comme si la montagne ne lui suffit pas et puis qu'il aime et qu'il lui faut explorer à cette époque où les aventures d'un Charles de Foucault impressionnent encore.
Et c'est pourtant un homme de la vallée.
Oui, un homme de la vallée et j'oserais même dire un homme de la vallée de Chamonix. Il devient réellement chamoniard, comme on dit, dans les années 30. Et c'est tout à fait intéressant d'ailleurs, comment est-ce qu'il le devient. On a un homme qui n'a pas arrêté de bouger d'ailleurs, hein, qui n'a pas cessé de voyager, mais pourtant qui a voulu et su garder une ferme attache avec la montagne alpine. Et pour ce faire, il va acheter dans les années 30 une brasserie à Chamonix. Alors c'est le lien est intéressant parce qu'on
peut pas faire comme les autres, hein.
N'est-ce pas? Et puis surtout, ça renvoie toujours à son personnage de Pierre qui devait devenir hôtelier. Le pied d'attaché là, donc. Hein. Alors, on va le dire tout de suite, hein, il verra pas souvent le comptoir, hein, pris qu'il est dans ses folles courses vers les sommets. On imagine toutefois que les lieux lui serviront d'inspiration pour certains passages de premier de cordée.
Et du coup, dans Premier de Cordée, y a une liste de guides célèbres, c'est bien ça?
Oui, c'est effectivement une chose amusante. Dans le même ouvrage, vous avez une liste de guides célèbres, comme par exemple un certain Le Rouge, pour ceux qui ont lu l'ouvrage.
Ça fait un peu pirate.
C'est ça, oui. Alors, c'est un surnom. Hein. Cet homme s'appelle en réalité Joseph Ravanel. Il a réellement existé et il a choisi Roger Frison Roche, qui était alors un tout jeune homme, pour une expédition qu'il dirige vers le Mont Blanc en 1925. Donc, il y a une attache réelle.
Et enfin, quelque chose que peut-être peu de gens savent, il était aussi peintre.
Oui, peintre d'une certaine manière. C'est peut-être en forme de conclusion ce qu'il faut dire. J'ai dû lire une ou deux fois au minimum Premier de Cordée. Et chaque fois que je compare cette œuvre à la vie de son auteur, j'y trouve de grandes similitudes. Et c'est, je pense, sans doute pourquoi le roman a tant plu. Parce que Roger Frison Roche nous raconte, nous narre, nous emmène dans le dédale des rues de Chamonix avant d'embarquer pour les plus hauts sommets. Et tout respire l'authenticité. Il faut s'imaginer quand même qu'il nous plante l'action dans la première moitié du XXe siècle, à cette époque où la montagne, c'est pas aussi touristique qu'aujourd'hui. Il y a encore cette authenticité, cette respiration locale qui fait qu'on sent que ce ne sont pas des déracinés qui sont venus s'installer là, mais bien au contraire des gens du terroir. Et puis vous avez un homme pour qui le voyage ne suffit pas. Alors il lui faut croquer comme un artiste tout ce qu'il voit, tout ce qu'il découvre, tout ce qu'il vit. Et ses ouvrages, ces ouvrages vont se faire l'écho fréquent d'expériences bouleversantes, d'expériences très fortes, voire même périlleuses.
On reste côté ouvrage. Ton petit conseil lecture pour Roger Frison Roche, ça serait quoi?
Alors, j'ai plusieurs ouvrages hein, qui m'ont plu, qui m'ont intéressé. Alors, le premier, c'est « Les montagnards de la nuit ». C'est un ouvrage extrêmement sympathique qui évoque la résistance dans les Alpes dans les années 40. Alors pour la petite parenthèse, Roger Frison Roche était un résistant dans les Alpes dans les années 40. Et il sera rattaché à une compagnie de chasseurs alpins, bien sûr, hein, on n'imaginait pas les choses autrement. Et puis il sera ensuite officier d'état-major. C'est également aussi un autre ouvrage, Mont Blanc aux Sept Vallées, qui est un très joli ouvrage où il évoque ce que j'ai envie d'appeler une expérience mystique de grimper du Mont Blanc. Donc c'est très joli, même chose, ça renvoie toujours à ce que lui a connu. Et enfin, bien sûr, et avant toute chose, j'ai envie de dire Premier de Cordée. Et puis j'ai envie de vous lancer le défi, le pari, j'ai envie de vous demander... qu'est-ce que vous en pensez? Lisez-le et dites-moi ensuite ce que vous en pensez. Envoyez-nous un petit mot à la radio pour nous dire ce que vous en pensez, ou même sur la page Facebook. Mais envoyez-moi une petite carte postale à la radio RCM pour me dire ce que vous en pensez. J'attends vraiment sincèrement, avec beaucoup de curiosité, vos réactions.
Je pense que pas mal de personnes l'ont peut-être déjà lu. Donc peut-être que tu reçois rapidement une réponse, non?
Ben j'espère, et puis j'espère aussi que vous prendrez plaisir à le relire, parce que c'est vraiment un ouvrage, je vous dis, qui moi, m'a bouleversé, m'a fait découvrir la montagne. Alors, je ne vais pas vous raconter non plus ma vie, mais j'ai découvert la montagne. Le Mosellan que je suis a découvert la montagne vers l'âge de 17-18 ans. Et ça a vraiment bouleversé ma vie. Et Premier de Cordée a été vraiment l'élément déclencheur qui a fait que je me suis dit, ah oui, c'est vraiment totalement ça. Et c'est à la suite de ça qu'une dizaine d'années plus tard, je suis venu m'installer dans les Vosges définitivement.
Différent des Alpes, mais tout de même tout aussi beau.
Voilà, et puis bon, le modeste prof que je suis n'a pas les moyens de s'offrir un chalet dans les Alpes.
Bientôt.
Voilà, je suis fatigué de dire à mes élèves, le jour où j'aurai mon chalet à Gstaad, n'est-ce pas, hein, ils pourront venir sans aucun souci. Mais malheureusement, ces élèves que je salue, eh bien, ils devront se contenter de venir me voir dans les Vosges.
Merci beaucoup Olivier.
Merci à toi Cyrielle.
On se retrouve la semaine prochaine, on continue l'afterwork pour nous, on se retrouve à 17h pour les infos et puis la deuxième partie de l'afterwork.
À la semaine prochaine.